Guerre et paix. Troisième partie, chapitre 1, scène 15. L'action principale se passa sur une étendue de deux verstes, entre Borodino et les ouvrages avancés de Bagration. En dehors de ce rayon, la cavalerie d'Ouvarov fit une démonstration vers le milieu de la journée et, de l'autre côté d'Outitsa, Poniatowski et Touchkov en vinrent un moment aux mains. Mais ces deux incidents furent relativement sans importance. Ce fut donc sur la plaine, entre Borodino et les flèches de Bagration, sur cet espace découvert près du bois, qu'eut lieu en réalité la bataille, de la façon la plus simple et la moins compliquée qu'on puisse imaginer. Le signal en fut donné des deux côtés par le feu de plus de 200 pièces de canon. Puis, lorsque la fumée s'étendit comme un épais nuage, les deux divisions de Dessay et de Compense se dirigèrent sur les flèches, pendant que le détachement du vice-roi se portait sur Borodino. Il y avait une verste de distance entre ces flèches et la redoute de Chevardino, où se tenait Napoléon, et plus de deux verstes, à vol d'oiseau, entre ses ouvrages avancés et Borodino. Napoléon ne pouvait donc pas se rendre compte de ce qui se passait sur ce point, car la fumée couvrait tout le terrain. Les soldats de la division d'Essay ne restèrent visibles que jusqu'à leur descente dans le ravin. Dès qu'ils y disparurent, la fumée, redoublant d'épaisseur, déroba à la vue le versant opposé. De côté et d'autre se détachaient quelques points noirs et brillaient quelques baïonnettes. Mais, du haut de la redoute de Chevardino, il était impossible de préciser si les Russes et les Français étaient immobiles ou en mouvement. Les rayons obliques d'un soleil resplendissant éclairaient la figure de Napoléon, qui s'abritait derrière sa main pour examiner les ouvrages avancés. Quelques cris partaient du milieu de la fusillade, mais la fumée, toujours croissante, l'empêchait de rien distinguer. Il descendit du mamelon et se mit à marcher de long en large, en s'arrêtant de temps à autre, en prêtant l'oreille au bruit des détonations et en jetant des regards sur le champ de bataille. Mais ni de l'endroit où il se tenait dans ce moment, ni de la hauteur où étaient restés ses généraux, ni des retranchements eux-mêmes, pris et repris tour à tour par les Russes et par les Français, on ne pouvait comprendre ce qui se passait. Plusieurs heures durant, on apercevait, au milieu d'une fusillade incessante, tantôt les Russes, tantôt les Français, tantôt l'infanterie, tantôt la cavalerie. Ils paraissaient, tombaient, tiraient, se bousculaient et, ne sachant que faire les uns et les autres, criaient, couraient et revenaient sur leurs pas. Les aides de camp envoyés par Napoléon et les officiers d'ordonnance de ses maréchaux venaient à tout instant lui faire leurs rapports. Ces rapports étaient forcément mensongers, parce que, dans le feu de la mêlée, il était impossible de savoir au juste où en étaient les choses, parce que la plupart des aides de camp se bornaient à raconter ce qu'on leur disait sans s'approcher du lieu même du combat, et enfin parce que, pendant les quelques instants qu'ils mettaient à franchir la distance, tout changeait de face, et, par suite, la nouvelle qu'ils apportaient devenait inexacte. C'est ainsi qu'un aide de camp du vice-roi accourut annoncer la prise de Borodino, celle du pont de la Kolotchka, et demander à Napoléon s'il fallait ou non le faire franchir aux troupes. Napoléon ordonna de s'aligner de l'autre côté et d'attendre. Mais, pendant qu'il donnait cet ordre, et au même moment où l'aide de camp quittait Borodino, ce pont avait été repris et brûlé par les Russes. Dans ce même engagement où nous avons vu figurer Pierre au commencement de la bataille. Un autre aide de camp vint annoncer, d'un air de terreur, que l'attaque des ouvrages avancés avait été repoussée, que Compense était blessé, Davout tué, tandis que, par le fait, ses retranchements avaient été repris par des troupes fraîches et que Davout n'était que contusionné. À la suite de ces rapports, faux par la force même des circonstances, Napoléon faisait des dispositions qui, si elles n'avaient pas été déjà prises par d'autres, d'une manière plus opportune, auraient été inexcusables. Les maréchaux et les généraux, plus rapprochés que lui du champ de bataille et ne s'exposant aux balles que de temps à autre, prenaient leurs mesures sans en référer à Napoléon, dirigeaient le feu et faisaient avancer la cavalerie d'un côté et courir l'infanterie d'un autre. Mais leurs ordres étaient le plus souvent exécutés qu'à moitié, de travers ou pas du tout. Les soldats qui avaient ordre de marcher tournaient les talons dès qu'ils sentaient la mitraille. Ceux qui devaient rester immobiles fuyaient ou se jetaient en avant, en voyant l'ennemi se dresser soudain devant eux, et la cavalerie s'élançait de son côté pour rattraper les fuyards russes. C'est ainsi que deux régiments de cavalerie franchirent le ravin de Semenovski, se lancèrent sur la montée, tournèrent bride et repartirent à fond de train, tandis que l'infanterie faisait de même de son côté, en se laissant également entraîner. Ainsi donc, toutes les dispositions nécessitées par le moment étaient prises par les chefs immédiats sans attendre les ordres de Ney, de Davout ou de Murat, et, à plus forte raison, ceux de Napoléon. Il craignait d'autant moins d'en assumer la responsabilité que, pendant la mêlée, l'homme n'a plus d'autre idée que de sauver sa propre vie, et qu'en cherchant le salut, il se jette en avant, en arrière, et agit sous l'influence exclusive de sa surexcitation personnelle. En résumé, tous ces mouvements produits par le hasard ne facilitaient ni ne changeaient la position des troupes. Leurs chocs et leurs attaques ne leur faisaient que peu de mal. C'étaient les boulets et les balles qui, traversant l'immense espace, leur apportaient la mort et les blessures. Dès que ces hommes se trouvaient hors de la portée des projectiles, leur chef s'en emparait, les alignait, les soumettait à la discipline et, par la puissance de cette même discipline, les ramenait dans ce cercle de fer et de feu où ils perdaient de nouveau leur sang-froid et couraient à l'aventure en s'entraînant mutuellement.